Si ce n'était pas le travail de Gates de penser à toutes ces choses, c'était en revanche le mien. J'ai donc présidé, entre mi-septembre et mi-novembre, une série de 9 réunions dans la salle de crise, d'une durée de 2 à 3 heures chacune, pour décortiquer le plan de McChrystal. La longueur interminable de nos délibérations faisait jaser dans tout Washington, et même si mon entrevue avec Gates et Mullen avait mis un terme aux interventions publiques des chefs d'état-major, les fuites, les petites phrases anonymes et les spéculations continuaient d'aller bon train dans la presse. Je m'efforçais d'ignorer ce bruit de fond, aidé en cela par la certitude que la plupart des critiques les plus virulents étaient les mêmes commentateurs et experts autoproclamés qui avaient activement soutenu l'invasion de l'Irak. De fait, un des principaux arguments en faveur du plan de McChrystal était sa ressemblance avec la stratégie de contre-insurrection employée par Petraeus lors de l'offensive américaine en Irak. Certes, l'accent mis par ce dernier sur l'entraînement des forces locales, le renforcement du gouvernement et la protection des populations civiles, au lieu de nous borner à empiler les cadavres des insurgés, avait du sens. Mais l'Afghanistan de 2009 n'était pas l'Irak de 2006. Les deux situations étaient différentes et appelaient donc des solutions différentes. À chaque nouvelle réunion dans la salle de crise, il m'apparaissait un peu plus évident que la contre-insurrection imaginée par McChrystal pour l'Afghanistan excédait ce qui était nécessaire pour vaincre Al-Qaïda, mais surtout qu'elle excédait ce qui serait faisable durant mon mandat, voire faisable tout court. John Brennan, pour sa part, rappelait que, contrairement à Al-Qaïda en Irak, les talibans étaient trop profondément intégrés au tissu de la société afghane pour être éradiqués, et que, malgré leurs affinités avec Al-Qaïda, rien n'indiquait qu'ils cherchent à attaquer les États-Unis ou leurs alliés sur leur propre sol. Notre ambassadeur à Kaboul, l'ancien général Carl Eikenberry, doutait qu'il soit possible de réformer le gouvernement et craignait qu'un envoi massif de troupes, et donc une américanisation accrue de la guerre, ne décharge Karzai de toute pression pour se ressaisir. La durée sur laquelle McChrystal prévoyait d'envoyer puis de retirer les troupes faisait moins penser à une offensive sur le modèle irakien qu'à une occupation de long terme, ce qui a poussé Biden à lui demander pourquoi, puisque Al-Qaïda était au Pakistan et traqué par nos drones, nous devrions envoyer 100 000 hommes pour reconstruire le pays voisin. En ma présence, tout du moins, McChrystal et les généraux répondaient consciencieusement à ces questions, parfois de manière convaincante, parfois un peu moins. Malgré leur patience et leur bonne manière, ils cachaient mal leur irritation quand leurs opinions étaient contestées, surtout par des personnes qui n'avaient jamais porté l'uniforme. McChrystal levait les yeux au ciel chaque fois que Biden commençait à lui expliquer ce qu'il fallait faire pour mener à bien une opération antiterroriste. Les tensions entre le staff de la Maison-Blanche et le Pentagone s'aggravaient. Le Conseil de sécurité nationale avait l'impression de parler à un mur lorsqu'il demandait à être informé dans un délai raisonnable, et Gates fulminait en silence, car il jugeait que le Conseil empiétait sur ses plates-bandes. L'animosité contaminait même les relations internes au service. Le vice-président du comité des chefs d'état-major, James Hose Cartwright, et le lieutenant-général Douglas Lute, adjoint au Conseil et ancien conseiller spécial ou tsar de guerre pendant les 2 dernières années de l'administration Bush, à qui j'avais demandé de rester en poste, ont tous deux vu leur popularité au sein du Pentagone dégringoler à la seconde où ils ont accepté d'aider Biden à concevoir une option moins gourmande en moyens humains et plus axée sur l'antiterrorisme. Hillary, pour sa part, considérait que les manœuvres d'Eikenberry avec les canaux officiels du département d'État frôlaient l'insubordination et demandait qu'ils soient limogés. Dans ces conditions, on comprend aisément que, après 3 ou 4 défilés de présentations PowerPoint, plans de bataille et vidéos capricieuses, sous la lumière constante des néons, en buvant du mauvais café et en respirant un air renfermé, tout le monde en avait sa claque de l'Afghanistan et des réunions, et plus personne ne pouvait se voir en peinture. Quant à moi, eh bien, je ressentais plus que jamais le poids de ma charge. Je tâchais de ne rien laisser paraître, de rester neutre tandis que je posais des questions, prenais des notes et griffonnais de temps à autre dans les marges du bloc-notes disposé devant moi, le plus souvent des motifs abstraits, quelquefois un visage ou une scène de bord de mer, un goéland survolant un palmier et des vagues. Mais il arrivait aussi que j'explose, surtout quand quelqu'un répondait à une question délicate, en se rabattant sur l'argument de l'envoi de troupes afin de montrer notre détermination. Je demandais alors, d'un ton parfois trop sec, ce que cela signifiait exactement. Que nous allions persévérer dans nos erreurs? Croyait-on sincèrement que nous allions impressionner nos alliés et intimider nos ennemis en continuant à faire du surplace pendant 10 ans? Par la suite, je dirais à Dennis que cela me faisait penser à la comptine de la vieille dame qui avale une araignée pour attraper une mouche. À la fin, elle avale un cheval. Et bien sûr, elle en meurt, conclurait Denis. Certains soirs, après ces réunions marathon, je me dirigeais vers la salle de billard près du bureau ovale pour y fumer une cigarette et m'imprégner du silence. Et alors je sentais toutes les tensions dans mon dos, mes épaules et mon cou, signe d'un manque d'exercice, mais aussi de l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. Si seulement la décision au sujet de l'Afghanistan n'avait été qu'une question de détermination, une question de volonté, de feu et d'acier. Cela avait été vrai pour Lincoln quand il avait tenté de sauver l'Union, et pour Roosevelt après Pearl Harbor, alors que les puissances expansionnistes menaçaient les États-Unis et le monde. En pareille circonstance, il faut mobiliser ses forces et se lancer dans une guerre totale. Mais aujourd'hui, les menaces que nous avons à affronter, des réseaux terroristes mortels mais invisibles, des États voyous faibles mais résolus à se doter d'armes de destruction massive, sont aussi réels qu'intangibles, et la détermination sans vision à long terme se révèle au mieux inutile. C'est à cause d'elle que nous nous embarquons dans de mauvaises guerres et fonçons tête baissée dans des impasses. C'est à cause d'elle que nous en venons à administrer des régions inhospitalières et à accroître plutôt qu'à diminuer le nombre de nos ennemis. Du fait de leur puissance inégalée, les États-Unis peuvent choisir comment, quand et contre qui ils se battent. Prétendre l'inverse, affirmer que notre sécurité et notre réputation exigent que nous fassions tout ce que nous pouvons aussi longtemps que nous pouvons sur tous les théâtres, c'est abdiquer notre responsabilité morale et nous abriter derrière une certitude mensongère. Le 9 octobre 2009, aux environs de 6h du matin, le standard de la Maison-Blanche m'a réveillé en sursaut pour me mettre en communication avec Robert Gibbs. Il était rare que mon staff m'appelle aussitôt, et mon cœur s'est arrêté de battre un instant. Était-ce un attentat? Une catastrophe naturelle? « Vous avez reçu le prix Nobel de la paix », m'a annoncé Gibbs. « Comment ça ?»« C'est tombé il y a quelques minutes. »« Mais pourquoi ?» Gibbs a habilement fait mine de ne pas avoir entendu ma question. Il s'est contenté de dire que Favs m'attendrait devant le bureau ovale pour que nous écrivions ma déclaration. Quand j'ai raccroché, Michel m'a demandé ce qui se passait. « J'ai reçu le prix Nobel de la paix. »« C'est super, mon chéri », a-t-elle répondu avant de se retourner pour finir sa nuit. Une heure et demie plus tard, Malia et Sacha ont déboulé dans la salle à manger où je prenais mon petit déjeuner. « C'est un grand jour, papa !» a dit Malia en enfilant son sac à dos. « T'as gagné le prix Nobel et c'est l'anniversaire de Beau. Et en plus, on a un week-end de 3 jours !» a ajouté Sacha en sautant de joie. Après quoi, elles m'ont déposé un bisou sur la joue et sont parties à l'école. Dans la roseraie, j'ai déclaré devant les journalistes rassemblés que, étant en poste depuis moins d'un an, je n'avais pas le sentiment de mériter une place aux côtés de toutes ces personnalités qui avaient changé le monde et avaient été honorées par le passé. Au contraire, je voyais plutôt dans cette récompense une incitation à agir, un moyen pour le comité Nobel de promouvoir les causes pour lesquelles le leadership américain était vital. Encadrer les menaces posées par les armes nucléaires et le réchauffement climatique, réduire les inégalités économiques, faire respecter les droits fondamentaux et surmonter les divisions raciales, ethniques et religieuses qui alimentent si souvent les conflits. J'ai conclu en formulant le souhait de partager cette récompense avec les hommes et les femmes qui œuvraient partout dans le monde et souvent dans l'anonymat à faire triompher la justice, la paix et la dignité humaine. De retour dans le bureau ovale, j'ai demandé à Katie de mettre en attente les appels de félicitations qui commençaient à arriver et j'ai pris quelques minutes pour considérer le fossé croissant entre ce que j'avais imaginé et la réalité de ma présidence. 6 jours plus tôt, 300 miliciens afghans avaient attaqué un poste avancé américain dans l'Hindou Kush, tuant 8 soldats et en blessant 27. Le mois d'octobre 2009 allait devenir le plus meurtrier pour nos troupes depuis le début de la guerre d'Afghanistan 8 ans auparavant, et je savais que, loin d'inaugurer une ère de paix, je risquais bientôt d'envoyer de nouveaux soldats au front. Vers la fin du mois, accompagné par le procureur général Eric Holder, j'ai embarqué dans un vol de nuit pour la base aérienne de Dover, dans le Delaware, afin d'assister au retour sur le sol américain de la dépouille de 15 soldats et 3 agents de la répression des stupéfiants, la DEA, tués lors de 2 incidents successifs en Afghanistan, un crash d'hélicoptère et 2 mines posées au bord d'une route dans la province de Kandahar. Il n'était pas courant qu'un président soit présent lors de ses rapatriements sous les honneurs, mais cela me paraissait plus important que jamais. Depuis la guerre du Golfe, la défense refusait que la presse couvre le retour des cercueils de nos militaires, mais avec l'aide de Bob Gates, j'avais réussi à revenir sur cette politique l'année précédente et le choix appartenait désormais aux familles. Il me semblait que, si au moins un de ces rapatriements était documenté, le pays pourrait mieux prendre conscience du tribut de la guerre, de la douleur qui accompagnait chaque perte. Et cette nuit-là, au terme d'un mois dévastateur, alors que l'avenir du conflit était en débat, une des familles avait choisi de rendre public ce moment. Les 4 ou 5 heures que j'ai passées sur la base ont été marquées par un silence de tous les instants. Dans la petite et sobre chapelle où Holder et moi avons rejoint les familles rassemblées. Dans la soute du C-17 qui avait ramené les 18 cercueils enveloppés dans le drapeau américain et dont les parois métalliques renvoyaient en écho la prière de l'aumônier. Sur le tarmac, où nous nous sommes tenus au garde à vous pendant que 6 hommes en treillis militaires, gants blancs et bérets noirs portaient les lourds cercueils l'un après l'autre jusqu'à la rangée de véhicules qui les attendaient. Il n'y avait aucun bruit dans le monde, hormis la plainte du vent et la cadence des pas. Dans le vol du retour, quelques heures avant le lever du soleil, les seuls mots que je me rappelais de cette visite étaient ceux de la mère d'un des soldats. « N'abandonnez pas ceux qui sont encore là-bas. » Elle paraissait épuisée, le visage creusé par le chagrin. Je lui en ai fait la promesse, sans savoir si cela signifierait d'envoyer de nouvelles troupes pour terminer la mission qui avait coûté la vie à son fils, ou d'en finir avec un conflit interminable et confus. La décision n'incombait qu'à moi. La semaine suivante, un autre désastre a frappé notre armée, mais cette fois plus près de nous. Le 5 novembre, le chef de bataillon et psychiatre Nidal Hassan est entré dans un bâtiment de la base de Fort Hood à Killeen, au Texas, a dégainé un pistolet semi-automatique acheté dans une armurerie des environs et a ouvert le feu, faisant 13 morts et des dizaines de blessés avant d'être neutralisé et appréhendé par la police de la base. Là encore, je me suis rendu sur place pour réconforter les familles endeuillées et j'ai prononcé un discours lors de la cérémonie organisée en extérieur. Tandis qu'une trompette jouait le traditionnel hymne funèbre, ponctué par les sanglots étouffés de l'assistance, je parcourais du regard les objets déposés à la mémoire des soldats tombés. Une photographie dans un cadre, une paire de bottes de combat, un casque posé sur un fusil. J'ai pensé à ce que John Brennan et Robert Mueller, le directeur du FBI, m'avaient dit lors des briefings à propos de cette fusillade. Hassan, musulman né sur le sol américain et dont le dossier signalait l'instabilité psychologique, semblait s'être radicalisé sur Internet. Il avait notamment été inspiré par un religieux yéménite charismatique avec qui il avait entretenu une correspondance régulière, un nommé Anwar al-Awlaki, qui jouissait d'une large audience internationale et que nous soupçonnions d'être le chef de file de la branche yéménite d'Al-Qaïda, de plus en plus active. D'après Mueller et Brennan, la Défense, le FBI et les équipes spéciales de lutte contre le terrorisme avaient eu vent assez tôt de la possible dérive de Hassan, mais les systèmes d'information interagence n'avaient pas fait le rapprochement et n'étaient pas parvenus à éviter ce drame. Les éloges funèbres ont pris fin. De l'autre côté de la base, j'imaginais les soldats affairés à préparer leur déploiement en Afghanistan et le combat contre les talibans. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si la plus grande des menaces ne se trouvait pas ailleurs, pas seulement au Yémen ou en Somalie, mais aussi dans le spectre d'un terrorisme né sur notre propre territoire, dans l'esprit fébrile d'hommes tels que Hassan et dans l'espace sans frontières du monde virtuel dont nous ne comprenions pas encore pleinement la puissance et la portée. Fin novembre 2009 a eu lieu notre 9e et dernière réunion au sujet de l'Afghanistan. Malgré le cinéma des uns et des autres, les clivages entre les membres de mon équipe s'étaient considérablement réduits. Les généraux concédaient qu'il était irréaliste de vouloir éradiquer les talibans du territoire afghan. Joe et le Conseil de sécurité nationale admettaient que nous ne pourrions jamais vaincre Al-Qaïda si les talibans proliféraient ou entravaient notre capacité de renseignement. Nous nous sommes accordés sur un ensemble d'objectifs atteignables. Freiner l'activité des talibans de sorte qu'ils ne constituent pas une menace pour les principaux foyers de population, pousser Karzai à réformer plusieurs ministères clés, tels que la défense et les finances, au lieu d'essayer de lui faire remanier tout son gouvernement, et accélérer l'entraînement des forces locales qui, à terme, permettraient au peuple afghan de sécuriser son territoire. Tous reconnaissaient aussi que ces objectifs, quoique plus modestes, imposeraient néanmoins l'envoi de troupes supplémentaires. C'est sur leur nombre et la durée de leur déploiement que nous continuions d'achoper. Les généraux ne démordaient pas des 40 000 hommes préconisés par McChrystal sans expliquer de manière satisfaisante pourquoi la quantité de troupes à envoyer ne variait pas d'un iota alors que nous étions convenus d'objectifs plus restreints. Quant à l'option antiterroriste renforcée élaborée par Biden sur les conseils de Hoss Cartwright et de Douglas Lute, elle requérait 20 000 hommes affecté exclusivement à l'entraînement des forces de sécurité et aux opérations antiterroristes, sans toutefois justifier clairement le poids de ces missions en personnel américain. Dans les deux cas, je craignais que ces chiffres soient dictés non par les objectifs que nous nous étions fixés, mais par des motifs idéologiques et institutionnels. Pour finir, c'est Gates qui a trouvé un compromis envisageable. Dans un mémo privé, il m'a expliqué que la demande de McChrystal anticipait le remplacement par les États-Unis des 10 000 soldats néerlandais et canadiens que les gouvernements de ces deux pays avaient promis de rapatrier. Si j'autorisais le déploiement de 3 brigades, pour un total de 30 000 hommes, cela pourrait nous aider à convaincre nos alliés d'envoyer les 10 000 restants. Gates convenait enfin qu'il fallait envisager toute augmentation de notre contingent sur place comme une offensive ponctuelle et non comme un engagement de long terme, à la fois en accélérant le rythme d'arrivée des troupes et en définissant un calendrier de retour sur 18 mois. Il me paraissait tout à fait remarquable que Gates accepte l'idée d'un calendrier. Jusque-là, il la rejetait, se rangeant à l'avis des chefs d'état-major et de Petraeus, affirmant qu'un calendrier suggérerait à l'ennemi qu'il lui suffisait d'attendre notre retrait. Désormais, il était convaincu que Karzai ne prendrait jamais de décision délicate portant sur les responsabilités de son gouvernement sans avoir la certitude que nous allions retirer nos troupes sans tarder. Après discussion avec Joe, Ram et le Conseil de sécurité nationale, j'ai décidé d'adopter la proposition de Gates. Elle se fondait sur un raisonnement qui ne se bornait pas à faire la moyenne entre le plan de McChrystal et l'option de Biden. À court terme, elle donnait à McChrystal la puissance de feu dont il avait besoin pour arrêter la poussée des talibans, protéger les foyers de population et assurer la formation des forces afghanes. Mais elle posait aussi des limites claires à la stratégie de contre-insurrection et nous mettait sur la voie d'une approche antiterroriste plus limitée à l'horizon de 2 ans. Restait à déterminer la solidité de ce plafond de 30 000 hommes, car le Pentagone avait pour habitude de déployer le nombre convenu, puis de demander ensuite des milliers de compléments, médecins, officiers de renseignement, etc., en insistant pour qu'ils ne soient pas comptés dans le total, et il a fallu à Gates un certain temps pour persuader son département. Toutefois, quelques jours après Thanksgiving, j'ai convoqué dans le bureau ovale Gates, Mullen et Petraeus, ainsi que Ram, Jim Jones et Joe, et je leur ai fait signer un contrat. Le Conseil de sécurité nationale avait préparé un mémo décrivant dans les grandes lignes l'ordre que j'allais donner, et avec l'appui de Ram et de Joe, il m'avait convaincu que le seul moyen d'éviter que les huiles du Pentagone ne contestent publiquement ma décision si la guerre dégénérait, était de les prendre entre quatre yeux et de leur faire signer un accord écrit. C'était un geste inhabituel et quelque peu autoritaire qui a sans doute irrité Gates et les généraux et que j'ai regretté presque immédiatement. Une conclusion appropriée, me disais-je, à une période compliquée de mon mandat. Je pouvais cependant m'estimer satisfait car l'examen du rapport de McChrystal n'avait pas été vain. Gates reconnaissait que, sans avoir produit un plan parfait, toutes ces heures de discussion avaient débouché sur un meilleur plan. Elle nous avait contraints à préciser nos objectifs stratégiques en Afghanistan, nous évitant ainsi l'enlisement. Elles avaient établi l'utilité d'un calendrier de déploiement des troupes dans des circonstances précises, une idée longtemps contestée par l'establishment sécuritaire de Washington. En plus de mettre un terme à l'indépendance du Pentagone pour la durée de mon mandat, elles ont aidé à réaffirmer le principe général du contrôle civil sur le processus décisionnaire en matière de sécurité nationale. Cela étant, la conclusion était que j'allais encore envoyer des jeunes gens à la guerre. Nous avons annoncé ce nouveau déploiement le 1er décembre à West Point, la plus ancienne et la plus illustre des académies militaires américaines. Ancien camp de l'armée continentale au temps de la guerre d'indépendance, situé à 1 heure au nord de New York, West Point est un endroit magnifique, un groupe d'édifices en granit noir et gris formant une petite ville érigée entre des collines verdoyantes et donnant sur les larges méandres de l'Hudson. Avant mon discours, le directeur me l'a fait visiter et m'a permis d'entrevoir une partie des bâtiments et du domaine où les commandants les plus décorés de notre histoire avaient fait leur classe. Grant et Lee, Patton et Eisenhower, MacArthur et Bradley, Westmoreland et Schwarzkopf. Impossible de ne pas être ému et empli d'humilité par la tradition qu'incarnaient ces hommes, par leur loyauté et leur sacrifice qui avaient contribué à forger une nation, à triompher du fascisme et à arrêter la progression du totalitarisme. Pour autant, je n'oubliais pas que Lee avait dirigé une armée confédérée et esclavagiste et que Grant avait supervisé le massacre de tribus indiennes, ni que MacArthur avait provoqué une catastrophe en bravant les ordres de Truman en Corée et que Westmoreland avait sacrifié toute une génération en poussant à l'escalade au Vietnam. Gloire et tragédie, courage et bêtise, une vérité n'annule pas l'autre. car tout comme l'histoire des États-Unis, la guerre est faite de contradictions. Lorsque je suis entré dans le grand auditorium proche du centre du campus, il était plein à craquer d'élèves officiers voisinant avec les hauts responsables, Gates, Hillary et les chefs d'état-major. Les élèves portaient l'uniforme, une veste grise avec des ornements noirs sur un col blanc. La proportion notable de noirs, d'hispaniques, d'asio-américains et de femmes dans leur rang était un témoignage vibrant des changements qu'avait connus l'école depuis sa première promotion en 1805. Tandis que je faisais mon entrée, introduit par une fanfare jouant les airs cérémoniaux de rigueur, les élèves se sont levés tous ensemble et ont applaudi. Et en voyant leur visage si franc et éclatant de jeunesse, si sûr de leur destinée et impatient de défendre leur pays, mon cœur s'est gonflé d'une fierté presque paternelle. J'ai prié pour que leur commandant et moi soyons dignes de leur confiance. 9 jours plus tard, je m'envolais en direction d'Oslo pour y recevoir le prix Nobel de la paix. L'image de ces jeunes élèves de West Point ne m'avait pas quitté. Au lieu de prétendre qu'il n'y avait aucune contradiction dans le fait de prolonger une guerre juste après avoir reçu une décoration pacifiste, j'ai décidé d'en faire le cœur de mon discours d'acceptation. J'avais sollicité l'aide de Ben Rhodes et de Samantha Power pour en poser les bases et m'étais inspiré de penseurs tels que le philosophe Reinhold Niebuhr et Gandhi pour organiser mon argumentation. La guerre est une chose terrible et cependant parfois nécessaire. Afin de réconcilier ces idées apparemment contradictoires, il est capital que la communauté des nations hausse ses exigences en matière de justification et de conduite de la guerre. La seule chose permettant d'éviter la guerre est une paix juste, fondée sur un engagement commun dans le sens de la liberté politique, du respect des droits fondamentaux et d'une action concrète visant à améliorer les perspectives économiques dans le monde entier. J'ai fini d'écrire mon discours à bord d'Air Force One pendant que Michel dormait dans notre cabine, mes yeux fatigués et régulièrement distraits de mon travail par la lune spectrale qui flottait au-dessus de l'Atlantique. Fidèle à la manière norvégienne, la cérémonie du Nobel, quelques centaines de personnes dans un auditorium brillamment éclairé, a été plutôt austère. Elle a débuté par une belle prestation de la jeune musicienne de jazz Esperanza Spalding, s'est poursuivie par une introduction du directeur du comité Nobel et s'est achevée par mon allocution, l'ensemble durant à peu près 1 heure et demie. Le discours en lui-même a été bien reçu, y compris par certains commentateurs conservateurs qui ont souligné mon souhait de rappeler aux Européens les sacrifices consentis par les troupes américaines afin de garantir des décennies de paix. Le soir, le comité Nobel donnait un grand dîner en mon honneur, où je me suis trouvé placé à côté du roi de Norvège, un homme âgé et élégant qui m'a raconté ses voyages en bateau à voile dans les fjords de son pays. Ma sœur Maya nous avait rejoints, ainsi que nos amis Marty et Anita, et notre petite assemblée tirée à 4 épingles s'est régalée de champagne et d'élan grillé avant de danser au son d'un orchestre de swing étonnamment bon. Mon souvenir le plus marquant, toutefois, est une scène qui s'est déroulée avant le dîner, à l'hôtel. La nuit commençait à tomber, et Michel et moi venions de finir de nous habiller, quand Marvin a toqué à la porte et nous a suggéré de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Nous avons écarté les rideaux et découvert, 4 étages plus bas, un attroupement de plusieurs milliers de personnes qui bouchaient la rue étroite. Chacune d'elles brandissait une petite bougie, façon traditionnelle pour les habitants de la ville, d'exprimer leur considération pour le lauréat du Nobel de la paix. C'était un spectacle magique, une nuée d'étoiles descendue du ciel, et quand nous nous sommes penchés à la fenêtre, dans l'air frais qui nous piquait les joues, sous les hurrahs de la foule, je n'ai pu m'empêcher de penser aux affrontements quotidiens qui enflammaient toujours l'Irak et l'Afghanistan, ainsi qu'aux cruautés, aux souffrances et aux injustices auxquelles mon gouvernement commençait tout juste à s'attaquer. L'idée qu'une seule personne, moi ou une autre, puisse apporter de l'ordre à ce chaos me paraissait risible. Considéré sous cet angle, tous ces gens acclamaient une illusion. Et pourtant, j'ai aussi vu autre chose dans le vacillement de ces bougies. J'y ai vu l'esprit de millions de personnes partout dans le monde. Le soldat américain qui monte la garde à Kandahar, la mère iranienne qui apprend à lire à sa fille, l'activiste russe pro-démocratie qui rassemble son courage avant une manifestation. Toutes celles et ceux qui refusaient de renoncer à la possibilité d'une vie meilleure et à leur place dans ce monde, quels que soient les risques et les obstacles. J'entendais leur voix qui me disait « Quoi que tu fasses, ce ne sera pas assez. » Mais essaie quand même.